Bienvenue chez Maddy, conversation avec un kiné. Nous avons créé le podcast Maddy pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Maddy, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Maddy laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet. Bref, Maddy, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. C'est avec une joie non dissimulée que nous amorçons la deuxième saison de notre podcast. En un peu moins d'un an, 15 épisodes ont vu le jour. 15 rencontres avec des kinés passionnés, engagés dans leur profession et ses combats, et aux parcours et expériences diverses. Merci à eux de nous avoir fait confiance pour diffuser leur point de vue de thérapeute, que nous nous efforçons de retranscrire avec justesse. Merci à vous, fidèles ou nouveaux auditeurs, pour vos écoutes et vos encouragements qui nous portent et pérennisent l'aventure. Sans vous, Maddy ne serait pas. Alors cette année 2020 est unique, elle est unique pour nous tous. Plus que jamais, la communication avec les patients devient un vrai sujet. Covid oblige. Prise de rendez-vous, nécessité d'intégrer plus de pédagogie dans nos pratiques, urgence de responsabiliser le patient, et aussi, c'est important, arriver à prendre plus de temps pour soi. Le confinement et la crise sanitaire ont rebattu les cartes et vous êtes nombreux à témoigner d'un besoin croissant de repenser la manière dont on interagit et on communique avec sa patientèle. Alors pour nous, c'est simple, c'est devenu notre nouveau challenge. C'est sans secret ni détour que je suis fière d'annoncer que l'équipe Maddy vous prépare pour très bientôt une solution 100% dédiée au kiné pour faciliter la gestion de sa patientèle. Pour que cette solution soit aux petits oignons, nous avons besoin de vos avis, vous les experts. Alors si vous souhaitez nous aider et participer au futur de la profession en nous consacrant un petit temps entre deux consultations, contactez-nous sur les réseaux sociaux ou sur hello@maddie.doctor. Sans plus tarder, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Maddy. Vous le connaissez peut-être mieux sous le pseudo cerveau musclé, mais il s'appelle Antoine. Il est kiné libéral en Île-de-France et Instagram et YouTube sont devenus ses terrains de jeu favoris pour informer les masseurs kinésithérapeutes et leurs patients, ainsi que déconstruire tout un tas de mythes à la lumière des données scientifiques. Aujourd'hui avec Antoine, nous allons parler douleur. Celle qui terrasse, celle qu'on tolère, celle qui fait pleurer ou crier, celle qui empêche de dormir, de courir ou de tout simplement faire ce que l'on aime. La douleur, on demande aux patients de la quantifier et de la verbaliser. On la catégorise, on la fiche dans le temps et dans le corps, on tente de l'expliquer, de la calmer, de la faire disparaître ou encore de l'accepter. La douleur est subjective et même avec toute l'empathie du monde, elle ne vit que dans le corps de celui ou celle qui l'a subie. Mais alors à quoi sert-elle ? Que sait-on d'elle et comment faire pour vivre avec ? Comment fait-on lorsque l'on est kiné pour expliquer la douleur à ses patients et agir sur le système douloureux ? Dans cet épisode, Antoine revient sur l'histoire de la douleur, le système douloureux, le rôle du cerveau dans l'expérience de cette douleur, l'hypersensibilité nerveuse, la régulation du message douloureux par les voies nociceptives, mais aussi l'analgésie induite par l'exercice. Alors apprêtez-vous à muscler votre cerveau, ou du moins à le faire fumer un peu, car nous accueillons au micro Antoine, aka cerveau musclé. Salut Antoine.
Hello.
Antoine, on t'accueille aujourd'hui au micro de Maddy, avec Lola. Coucou Lola.
Hello Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, t'es pas très connu sous ton vrai prénom. En revanche, certains d'entre vous vont sûrement identifier qui tu es, puisque t'es plus connu sous l'appellation cerveau musclé sur Instagram, puisque depuis quelques années maintenant, ça commence à se compter en années, je crois, tu as un compte sur Insta avec plus de 30 000 personnes qui te suivent. Évidemment, tu es kiné, hein, on ne déroge pas à la règle, Antoine. Et aujourd'hui, on aimerait évoquer avec toi un sujet qu'on n'a pas encore traité sur le podcast Maddy, qui est le sujet de la douleur. sujet auquel tous les kinés sont confrontés finalement tout le temps, la douleur de leurs patients. Et alors, Antoine, parce que c'est la nouvelle tradition sur Madi, d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander de répondre en une phrase à cette question. C'est quoi pour toi la douleur ?
C'est quoi pour moi la douleur ? Ouais. C'est une sensation désagréable. Je te réponds en deux mots.
Ok, j'adore, c'est hyper
Ok, Antoine, et du coup, avant d'aller plus loin dans le sujet, dans ce sujet passionnant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours de kiné, et ce qui t'a poussé à t'intéresser à creuser la notion de douleur ?
Oui, alors bah, tout simplement, donc je suis kiné depuis 3 ans maintenant. J'ai été diplômé aussi d'un master 2 en psychologie et contrôle du mouvement. Et également, donc du coup, en effet, j'ai ce compte Instagram Cerveau Musclé. Et pourquoi j'ai voulu creuser la notion de douleur ? Bah, alors pour deux raisons. Pour déjà, premièrement, un numéro de Kiné la Revue en juin 2017, quand j'ai été diplômé, qui parlait uniquement de la douleur, et j'ai trouvé ça exceptionnel.
Passionnant.
Ah oui, vraiment passionnant. Et par la suite, en fait, c'est vrai que travaillant en libéral, il y a 95% de mes patients qui viennent et qui me disent « j'ai mal ».
Ouais. Ouais.
Et je me suis dit « mais comment tu veux les comprendre ? Comment tu veux comprendre ce qu'ils te racontent ? Si ton seul dada, c'est la biomécanique ?» et que tu n'y connais rien aux sciences de la douleur. Comment tu veux faire ? Donc j'ai décidé de pousser le sujet, de creuser un petit peu, et en fait, c'est un peu comme la confiture, hein. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on est un peu foutu. Mmh. Et c'est un univers qui est passionnant, mais qui est très complexe, et du coup qui prend beaucoup, beaucoup de temps, tellement il y a de littérature et de choses à comprendre, etc. Donc voilà, comment je suis arrivé là.
Ok, très bien.
Alors, pourquoi cerveau musclé ?
Au début, en fait, je voulais appeler ça les muscles cortiqués, entre guillemets. Mm-hmm. C'est le majeur mouvement qui m'a dit « Non, mais c'est nul ton truc, c'est pas drôle, c'est chiant. » J'ai dit « T'as raison. » Et je me suis dit « Tiens, on va faire un truc assez un peu provoque, cerveau musclé. » Dans le sens où moi, je vois le cerveau en quelque sorte comme un muscle, en quelque sorte, parce qu'on a toujours moyen de le renforcer et notamment d'y ajouter des connaissances en permanence. Donc c'était un peu ça l'idée. Comme je livre de la littérature pour des gens qui sont pas forcément initiés, je me suis dit bah tiens, c'est une occasion pour eux de renforcer leur cerveau entre guillemets. Donc voilà l'origine de ce pseudo.
Et du coup les gens t'identifient bien comme kiné ? Sur Insta, c'est pas...
C'est une bonne question. Alors si en principe, si les gens savent que je suis kiné, ouais.
Ouais, ok. Bon, super.
Et tu sais si la plupart des gens qui te suivent, c'est des kinés ou c'est des personnes lambda ?
Je pense qu'au début, parce que je faisais des trucs, des posts un peu complexes et très kinés, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de kinés, d'étudiants kinés, ouais. Médecine, etc. Et je me suis dit, bah tiens, de plus en plus, on va essayer de faire pour le grand public. Et de plus en plus, ouais, j'ai des individus non soignants, si je puis dire, qui commencent à me suivre. Ouais.
D'accord.
En termes de douleur, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en fait la douleur, c'est un sujet auquel on est tous confrontés depuis notre naissance. Il y a plein de façons de la qualifier. On dit qu'elle est vicieuse, qu'elle est handicapante, c'est ingérable, chronique, modérée, acceptée, tolérable. Bref, il y a plein d'adjectifs qui qualifie la douleur et qu'on utilise pour qualifier la douleur. Mais finalement, souvent, on n'en sait pas grand-chose. Et même en tant que soignant, on creuse pas forcément effectivement ce sujet. Aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'on sait de la douleur ? Et si on fait une rétrospective en arrière, quelle est son histoire ?
Ouais. Alors, tu m'as sorti une liste de qualificatifs concernant la douleur qui était très intéressante, cette liste. Donc, tu m'as dit vicieuse, etc., etc. Ouais. Pour moi, le premier qualificatif qui me vient en tête, c'est vital. La douleur, avant d'être un truc pénible, c'est aussi une fonction vitale qui a permis à notre espèce de survivre. Un exemple tout bête, je pense que quand les hommes ont découvert le feu, donc ça, alors je suis pas très bon en histoire là-dedans, mais ça date quand même d'il y a quelques années, n'est-ce pas ? Mmh. heureusement que la douleur les a prévenus de pas laisser leurs mains dedans ou de pas carrément se jeter dedans. Pour se dire, ok, là c'est quand même, il y a un danger pour mon corps, il faut que j'enlève ma main. Donc ça nous renvoie ça à une notion de ce qu'on appelle la douleur aiguë. La douleur aiguë vraiment peut avoir un signal de survie en disant, ok, là il y a danger imminent, il faut faire attention, il faut réagir. Ou typiquement, je sais pas, comme si on marchait, quand on marche la nuit sur un Lego, quelque chose comme ça, on me dira, allez où la survie? Bah, la survie, c'est juste que si on reste le pied enfoncé là-dedans, on a peut-être un risque d'abîmer son pied. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la douleur aiguë, et il y a un autre type de douleur qui est beaucoup plus, cette fois, embêtant, plus handicapant, parce que la notion de survie disparaît, et c'est ce qu'on appelle la douleur chronique. Ouais. Typiquement, l'individu qui souffre de son dos depuis des années, et je pense pas qu'il y ait de risque pour sa survie si jamais il vit avec depuis des années. Donc dans l'idée, ça c'est une douleur qui est handicapante et c'est une douleur qui est très très différente dans les mécanismes par rapport à la douleur aiguë. Enfin très différente avec des similitudes bien sûr, mais on a quand même quelques différences notables. Ce qui est rigolo en effet, c'est comme tu me l'as demandé, c'est d'un point de vue historique, la douleur, les concepts de douleur ont vachement évolué. Me semble-t-il qu'au Moyen-Âge, on parlait surtout de punition divine, n'est-ce pas? Que c'était un châtiment de Dieu parce qu'on avait fait des conneries ou quelque chose comme ça. Et il me semble pourtant que si on remonte, alors si je dis pas de bêtises, c'était avec Galien dans la Rome antique, lui il décrivait ça plutôt comme étant une possible atteinte nerveuse. Galien, on va dire que c'est l'un des premiers grands anatomistes physiologistes qu'on ait eu. Donc ça date de la Rome antique, donc c'est pas d'hier non plus. Et lui qui décrivait déjà un schéma possible avec des nerfs, etc. Donc c'était vachement intéressant. Et pareil en Grèce pour beaucoup c'était une punition divine. Donc les concepts de douleur ont eu le temps d'évoluer, bah, en même temps que la science a évolué de toute façon, c'est inévitable. Et aujourd'hui, c'est vrai que de définir la douleur physiologiquement parlant, il va falloir qu'on fasse un podcast de 4 heures.
Ouais. C'est sûr. Et du coup, pour toi, la douleur, ça serait plus un symptôme? Ça serait plus une... Quand tu parles de douleur chronique, du coup, une maladie?
Ça peut être un symptôme. Donc, ça peut être un symptôme, en effet, d'une pathologie, hein, que ce soit une entorse de cheville ou plus grave, comme un cancer ou des pathologies. Maintenant, je sais que... L'Association internationale d'études de la douleur, l'IASP, parle de ce qu'on pourrait appeler une douleur primaire. Donc, c'est-à-dire où il n'y a pas de cause tissulaire ou organique, mais qu'il y a quand même une douleur qui se déclenche. Et je crois que pour ça, j'ai un très bon exemple. C'était un monsieur, donc c'est un article qui a été publié dans le British Medical Journal. Je crois que c'était vers le milieu du XXe siècle, un truc comme ça. Enfin bref, peu importe, c'était un ouvrier. Et il marche sur son chantier et il se rend compte à un moment où là, je me suis planté un gros clou dans la chaussure. Le gars se rend aux urgences, parce qu'il se dit « Ah, quand même, avoir un clou dans le pied, c'est pas cool. » Et bien sûr, il se tord de douleur, il hurle dans tout le service, etc. Les médecins finissent par l'endormir avec des médicaments pour pouvoir retirer la chaussure et le clou. Ouais. Et en retirant la chaussure, bah, ils se sont rendus compte que le clou n'avait même pas frôlé en fait la peau du patient, que le clou était passé entre les orteils. Et pourtant, il y en a de douleur, donc on dira c'était dans sa tête, mais peut-être pas, peut-être qu'il avait vraiment mal, vraiment très 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 mal, mais c'était une question de contexte. Il voyait un clou qui avait traversé sa chaussure et se disait « ok, là, c'est la merde ». Donc là, il n'y a pas de lésion tissulaire, il n'y a pas de maladie, mais il y a bien la présence d'une douleur, et en plus d'une douleur aiguë.
Qui trompe
Alors, qui trompe, oui et non. C'est toujours le cerveau, en tout cas, qui envoie un message douloureux. Si jamais je te pince le bras, c'est quand même ton cerveau qui va dire « Ok, j'ai reçu un message de la part du bras qui me dit « Là, il y a une très forte pression, très très forte. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'envoie un message douloureux ou est-ce que je ne fais rien ?» Et par exemple, si jamais Lola te pince en rigolant, etc., tu auras sûrement beaucoup moins mal que si c'est un inconnu à 2h du matin qui est derrière toi qui te pince le bras. possiblement. Donc dans l'idée, c'est la douleur est toujours un produit du cerveau, il n'y a pas de boucle réflexe douloureuse. Et ça, c'est très très important de le comprendre, c'est que tout se passe là-haut, du coup. Donc quand on dit que la douleur c'est dans notre tête, c'est à la fois vrai, parce que c'est en effet ça se passe dans le cerveau, et à la fois faux parce qu'une douleur est toujours réelle.
Est-ce qu'on peut catégoriser des types de douleurs ?
Oui, tout à fait. Il y a les douleurs nociceptives, douleurs nociplastiques, etc., etc. Maintenant, de ce que je peux voir, c'est qu'on a quand même une certaine stabilité sur les catégories de douleurs. C'est sûrement amené à évoluer, mais est-ce que c'est hyper important? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question. Mais si on en parle autant, c'est que ça doit l'être. Et c'est moi qui ne dois pas comprendre l'intérêt.
Alors attends, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Je suis en train de dire que du coup, c'est pas finalement peu importe d'où vient la douleur, quelle est sa nature, c'est pas forcément à prendre en compte dans sa volonté de la gérer.
Ça n'engage que moi. Ça n'engage que mes croyances, mais en effet, parce qu'on nous a parlé souvent de douleurs inflammatoires, douleurs neuropathiques, douleurs mixtes, douleurs nociplastiques, etc., etc. Donc ça évolue. Et pourquoi moi, en tant que clinicien, en tant que chercheur, ça m'intéresse bien sûr, mais en tant que clinicien, ça m'intéresse pas. C'est que le patient, il s'en fout pas mal de savoir si c'est inflammatoire ou ceci, cela. Lui, il vient juste, j'ai mal, faites quelque chose pour m'aider. Et au début, quand j'ai démarré avec mes connaissances sur la douleur, à chaque fois, je classais en effet les types de douleurs. Et je me suis rendu compte que ça m'apportait pas grand-chose, en fait. Ça m'apportait vraiment rien. Donc, je me suis dit, autant essayer de...
Pourquoi ça t'aide pas... pardon de te couper, mais du coup, ça t'aide pas du tout dans le... Dans la prise en charge de ton patient ?
Non, pour moi, pas du tout.
D'accord.
Pour moi, pas du tout, parce que ça va renvoyer des notions de la douleur que je vais peut-être être amené à développer dans ce podcast. Mais pour quelqu'un qui a mal depuis pas longtemps ou quelqu'un qui a mal depuis très longtemps, ma gestion va se ressembler un petit peu quand même.
Ok.
Tu veux dire que ça n'a pas de... Ça n'a pas d'implication sur ta prise en charge, le fait de savoir, d'une part, quelle est la nature de la douleur, mais aussi depuis combien de temps le patient souffre, comment est-ce qu'il évalue cette douleur.
Ouais.
Qu'est-ce qui va être important pour toi dans la prise en charge de comprendre ?
Ouais, pour moi, ce qui va être important, c'est de voir quelles sont les répercussions que la douleur a sur la vie du patient. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir s'il a une douleur nociplastique, s'il a une douleur type centralisée avec défaut d'inhibition. Enfin bref, tout ça, je m'en fous. C'est des choses que je connais théoriquement et à peu près, mais c'est des choses que je n'ai pas. Peut-être que je les applique malgré moi du coup et grâce à mes connaissances en clinique. Mais voilà, cliniquement, c'est vraiment une question que je vais poser souvent. C'est aujourd'hui, donc vous avez mal depuis un an, deux ans, etc. Quelle est la répercussion de la douleur sur votre vie? Est-ce que ça vous empêche de vous concentrer au travail? Est-ce que ça vous empêche d'avoir une vie sentimentale épanouie? Est-ce que même ça met le bordel dans votre couple? Est-ce que ça vous empêche de faire du sport? Est-ce que ça vous empêche d'apprécier certains moments? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'appréciez plus? C'est vraiment toutes les répercussions que la douleur peut avoir sur la vie de mon patient. Enfin, c'est ça qui m'intéresse et c'est là-dessus que j'ai envie de travailler.
Ok, et du coup ça m'amène à une autre question. En effet, pour un patient, enfin, en tout cas moi l'expérience que j'en ai, c'est que c'est souvent dur de nous décrire sa douleur, de nous la quantifier. Donc toi tu utilises en effet plutôt des rapprochements sur des activités de la vie quotidienne pour que le patient essaye de verbaliser cette douleur.
Oui, tout à fait, parce que bon, on peut utiliser des échelles objectives, les échelles visuelles analogiques, etc. Mais quand un patient dit j'ai une douleur à, je sais pas, à 5 sur 10, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que son 5 sur 10 n'est peut-être pas notre 5 sur 10.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est le principal problème. Après, on me dira, oui, mais c'est pas grave parce que c'est son 5 sur 10 à lui et c'est ça qu'on va réévaluer plus tard. Ok, très bien. Mais quel sens un chiffre a pour un patient qui souffre depuis 4 ans, par exemple du dos? Ça, c'est un cas que j'ai eu très récemment. Quel sens ça a pour lui. Il va se dire, ok, on m'a demandé un chiffre, mais bah, je comprendrais bien l'intérêt. Par contre, si on commence à lui dire, bah, est-ce que vous faites du sport, bah non, j'ai arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Bah parce que ça me fait mal, etc. D'accord, donc la douleur vous empêche de faire du sport. Ah bah oui, tout à fait. Et un sport en plus, peut-être que vous aimiez ça, etc. Bah ouais, moi j'adorais ça, ça me donnait la forme, etc. Et c'est là où on rentre dans un cercle vicieux et qu'on arrive à faire parler notre patient, à le faire extérioriser bah, tout ce qu'il peut ressentir, parce que la douleur, elle n'est pas que physique, c'est pas qu'une sensation physique, c'est aussi psychologique, c'est aussi un mal-être psychologique. Et pour moi, si on considère que la douleur physique, donc ce qu'on ressent, par exemple quand on a mal au dos, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant, et de pas considérer la souffrance, la détresse psychologique et émotionnelle que ça peut entraîner derrière. Donc c'est pour ça que pour moi, pour évaluer l'impact et la violence, si je puis dire, d'une douleur, c'est d'évaluer son état psychologique également.
Oui, bien.
Qui va être plus facile pour le patient à exprimer, parce que c'est du concret, alors qu'une sensation douloureuse, c'est jamais facile à expliquer. Oui, ça fait très mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Au final, ça fait très mal. Voilà, donc c'est pas évident. Et je pense que de faire verbaliser ça avec des choses de sa vie courante est d'autant plus facile pour nous et pour lui.
Comment on fait quand on est kiné et qu'on est face à une population qui ne peut pas verbaliser? Donc, je te parle d'enfants ou d'adultes non communicants.
Alors, les enfants, c'est une bonne question et j'en prends trop peu en charge pour pouvoir te répondre, sincèrement. J'avoue que c'est une question qui me colle. Pour les adultes qui ont plus de mal à verbaliser, en effet, c'est plus dur. On peut passer par de la communication non verbale, que ce soit avec le visage, etc. Et toujours de leur demander, voilà, quelles sont les activités ou quels sont les gestes qui sont impactés dans leur vie par la douleur, justement.
Comment tu t'y prends pour expliquer la douleur à tes patients? Parce que parfois, on est dans une situation quand même très compliquée face à la douleur. En tant que soignant, souvent les patients sont en détresse, ne savent pas, ne trouvent pas de solution, souffrent parfois depuis des années. Quelle est la phase de talk, j'ai envie de dire, avant de passer à la phase de traitement?
Alors, comment j'explique la douleur à mes patients? J'utilise une image simple, j'utilise le détecteur de fumée. Pour moi, le système de la douleur, c'est comme un détecteur de fumée, c'est-à-dire que il est là à intervenir au cas où il y a un danger. Et par exemple, quand on cuisine, je sais pas, on se fait un petit beefsteak ou quelque chose comme ça, ça fait de la fumée, mais la fumée n'est pas assez agressive pour déclencher le détecteur de fumée. Bon. Par contre, si jamais il y a un départ d'incendie, eh bien le détecteur de fumée va s'allumer. Quand la douleur devient chronique et qu'on a pu éliminer une cause organique ou une maladie grave, j'explique à mes patients qu'en fait le détecteur de fumée, je leur demande si ça leur est jamais arrivé chez eux ou dans leur vie que l'alarme incendie ne se soit jamais déclenchée toute seule. Mmh. Alors souvent, on va me répondre que si, c'est déjà arrivé, que c'est très pénible.
C'est vrai que ça arrive souvent.
Voilà, ça arrive. Parfois, ça se déclenche en pleine nuit à 3h du mat, et on ne sait pas pourquoi, et c'est super pénible. Il faut aller enlever les piles du truc, enfin bref. Et je leur dis, oui, tout à fait, donc c'est quelque chose qui est très pénible et qui arrive. Eh bien, il faut imaginer que la douleur chronique, c'est comme si votre détecteur de fumée, eh bien, était devenu très sensible. C'est-à-dire que pour une fumée de cuisson, initialement, qui ne produisait pas de réponse de la part du détecteur, eh bien, il commence à en produire. Et on ne sait pas pourquoi, et c'est très pénible. Et bien, la douleur chronique, c'est un peu pareil. On ne sait pas trop pourquoi ça se déclenche, et on sait que c'est pénible. Voilà ce que j'utilise pour mes patients comme image.
Génial. Ouais.
J'utilise aussi, c'est l'alarme incendie, mais c'est pareil.
Alors, c'est là où je suis un peu chiant. Ouais. Mais j'utilise pas alarme incendie, et pour une bonne raison, il y a le mot alarme qui peut faire peur. Et il y a le mot incendie qui peut faire peur aussi. Donc le détecteur de fumée, bon tu vois, c'est plus doux. Et j'ai remarqué que souvent quand je parlais d'alarme incendie, les gens étaient un peu plus stressés. Les détecteurs de fumée, les gens sont plus cool. Donc je me suis dit, bon bah ok, on va utiliser le détecteur de fumée. Tu verras, tu me diras si ça a changé quelque chose.
Est-ce que les patients qui sont justement dans cette détresse douloureuse, ils sont à même de comprendre que la douleur, c'est plus complexe que seulement des facteurs mécaniques, tissulaires.
À comprendre, il n'y a aucun souci pour eux. Ils comprennent très bien. Maintenant, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et il faut accepter que pour eux, le plus dur pour eux, en fait, c'est de se dire, mais si on n'a pas identifié de cause précise, donc souvent mécanique, anatomique, comment on va pouvoir m'aider? Et c'est là où je pense que justement l'éducation à ce qu'est la douleur, à comprendre ce qu'est la douleur, peut être très utile. Parce qu'en effet, un patient qui arrive, qui dit, j'ai déjà vu 3-4 ostéos, 5 kinés, 6 chiropracteurs, etc. Enfin, il y en a un qui trouve que j'ai le bassin vrillé, l'autre qui trouve que j'ai le gros orteil gauche qui est plus petit que le gros orteil droit. Enfin bref, où ils ont eu tous les diagnostics biomécaniques possibles, ils ont toujours mal. Là, on entre dans un cercle d'errance thérapeutique où le patient dit « mais je sais comment je vais m'en sortir ?» Et toi, t'arrives et tu lui dis « mais enfin, votre douleur, ça n'a rien à voir avec de la mécanique. » Alors là, c'est une grande claque une grande tape sur la tête. Et le gars va se dire, mais il est fou, enfin il y a forcément quelque chose, tout le monde l'a trouvé. J'ai vu 10 thérapeutes différents, ils ont tous trouvé quelque chose, et lui il me dit, on s'en fout.
Ouais.
Donc ça, là on arrive dans une phase en effet d'acceptation, et l'éducation à ce qu'est la douleur, aux sciences de la douleur, est un super outil.
Ouais. Là j'ai un autre exemple d'un patient là que j'ai eu récemment, qui avait, je pense, une tendinite de la coiffe, des rotateurs de l'épaule, et ça allait beaucoup mieux, et le médecin a quand même voulu faire, alors je ne sais pas pourquoi, mais un arthroscanner de l'épaule, et en effet, il a détecté qu'il y avait une lésion au niveau du tendon du susépineux, et du coup, ce patient-là, la séance d'après, revient en me disant, mais du coup, j'ai de nouveau mal à l'épaule. alors que ça allait beaucoup mieux avant l'imagerie, quoi. Donc c'est assez,
ouais, bien sûr, ouais.
C'est assez dingue. Antoine, il y a un phénomène dans la douleur qui est assez incroyable, et je vais prendre l'exemple d'une surfeuse qui s'appelle Bethany Hamilton.
Bien sûr.
Bien sûr. Du coup, qui dans les années 2000 s'est fait attaquer par un requin pendant qu'elle était en train de surfer, et qui a déclaré qu'elle s'était aperçue qu'elle n'avait plus son bras gauche seulement en arrivant à l'hôpital, et que surtout elle n'avait ressenti aucune douleur. Ouais. Donc je vais te demander comment toi tu pourrais nous expliquer qu'en situation de survie le cerveau soit capable d'occulter une telle douleur.
C'est là où la notion de contexte est hyper importante, et ça renvoie à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure sur l'ouvrier justement qui s'est transpercé le pied, enfin qui pensait s'être transpercé le pied et qui en fait rien du tout. Cette surfeuse, donc ça c'est une histoire d'ailleurs qui est extraordinaire, et en plus elle maintenant qui surfe avec un seul bras, et c'est extraordinaire. Ah ouais. En fait, son cerveau a bien reçu l'information qu'il manquait quelque chose, si je puis dire, qu'il y avait eu des arrachements musculaires, ligamentaires, etc. Mais son cerveau a dû faire le choix entre deux options. Soit, ma grande, je t'envoie un message de douleur, à te faire hurler, et tu pourras pas nager, et on va se faire bouffer. Soit, on va pas envoyer pour l'instant de message douloureux. On va plutôt se concentrer sur le fait qu'il y a un squale derrière nous, et que si on fait rien, il va pas nous bouffer que le bras. Donc dans l'idée, pourquoi, comment, je vais te répondre, j'en sais rien. Quels sont les mécanismes, c'est tellement incroyable que ça va être très compliqué de comprendre ça, en tout cas pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que le message nociceptif est bien arrivé. Mais le cerveau a fait un choix. Il a fait un choix et orienté survie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le temps qu'elle puisse justement nager vers la plage et qu'elle puisse être prise en charge, quand le choc émotionnel, on va dire, était occulté, ça s'est mieux passé. Maintenant, on peut supposer que il y a une réponse de survie tellement forte, avec une production tellement forte d'adrénaline, etc., etc., qu'en fait le message douloureux avait bien été envoyé par le cerveau, mais que ça avait été complètement chanté justement par cette décharge d'adrénaline, quoi. C'est complètement possible, et ce qui expliquerait pourquoi elle a commencé à ressentir la douleur plus tard.
Ouais.
Donc il y a deux grands mécanismes possibles. Soit le cerveau a carrément réussi à chanter le message douloureux, soit il a carrément réussi à l'inhiber suffisamment pour permettre justement de sauver la peau de cette surfeuse. Ouais. Et suite à la diminution de ses hormones, eh bien, elle a commencé à ressentir de grandes douleurs logiques.
Du coup, ça voudrait dire que le cerveau, il est capable de réduire d'une certaine façon la sensibilité nerveuse dans ce type de contexte. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse aider justement les patients à favoriser l'activation de ce système d'inhibition dans d'autres contextes qui ne sont pas des contextes de survie?
Oui, complètement. En fait, le cerveau, par rapport à la douleur, a deux grandes fonctions. On va dire trois grandes fonctions. La première, c'est de récupérer les messages nociceptifs. La deuxième fonction, c'est de mixer tout ça avec le contexte, les expériences passées, etc., etc., d'en produire le message douloureux. Et la troisième fonction, c'est de pouvoir justement réguler tout ce qui est nociception, message douloureux, etc., par, comme tu l'as dit, des voies inhibitrices. Il y a un truc assez rigolo à faire, alors pour des patients qui sont chronique, mais plutôt en aigu, parce qu'en chronique, ça va être, ça dépend, ça va être touchy, mais c'est ce qu'on appelle, l'analgésie induite par l'exercice. Mmh. En anglais, c'est exercise induced hypoalgesia. Et, lors d'une contraction musculaire intense, très intense, donc typiquement quand on fait la chaise par exemple, notre corps va produire énormément d'hormones liées à l'antidouleur, comme des cannabinoïdes, des opioïdes, etc. Et c'est vrai que pour quelqu'un par exemple qui a une lombalgie chronique, et pour qui ce système-là fonctionne bien, alors à évaluer c'est assez compliqué, mais disons que ce système-là fonctionne bien chez cette personne, et ben le fait de lui faire la chaise pendant une minute, disons, il va plus sentir de douleur du tout. Parce que justement, son corps aura produit toutes ses hormones en réponse à un exercice intense. Ça me rappelle aussi une patiente que je voyais pour une algodystrophie de la main. Donc c'est la algodystrophie, c'est grosso modo une pathologie assez douloureuse qui provient d'un dérèglement des nerfs dans une zone donnée. Ça a été un certain calvaire à rééduquer pendant quelques années. Mais maintenant on a quand même bien avancé sur le sujet, et elle avait ça à la main droite, et je me suis dit tiens, bah, pour la faire travailler, je vais lui serrer sa main gauche très très fort, elle va me serrer ma main avec sa main gauche très très fort, et on va voir si ça marche. Et donc avec sa main gauche, donc c'était sa main qui était saine, si je puis dire, elle m'a serré très très fort pendant une minute et demie, et après en effet elle avait plus du tout mal à la main droite, et on a pu commencer à travailler sa main, faire des exercices, etc. Et pour elle, ça a été un vrai déclic de se dire, bah en fait ma douleur, très simplement, même si c'est que temporaire, je peux la moduler facilement. Donc on peut tout à fait utiliser des systèmes inhibiteurs du corps humain et du cerveau pour travailler avec les chroniques. Et d'ailleurs, c'est que comme ça que je raisonne. Je me dis, bon, il faut que je trouve des façons d'activer ces systèmes-là.
Et ça, comment tu expliques à tes patients, comment le reproduire chez eux?
Oh bah, j'ai envie de faire la chaise. Hein.
D'accord.
Bah, souvent, je leur explique un peu le fonctionnement. En version très simple, voilà, un exercice intense permet de produire plein de petites hormones liées à l'antidouleur, au bien-être. Donc, il faut qu'on trouve un exercice intense. Alors, je vous laisse le choix. Hein. Vous pouvez faire la chaise, vous pouvez faire serrer un objet très très fort, vous pouvez faire voilà du gainage, du vélo. Enfin voilà, quoi. Il faut que l'exercice soit suffisamment intense et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ok. D'ailleurs, en parlant d'exercice. Mmh. Des exercices à favoriser ou des types de pratiques à favoriser pour agir sur le système douloureux. Donc là, tu parlais d'exercices intenses, mais voilà, il y a des pratiques en particulier où finalement, peu importe, l'important c'est de bouger.
Je dirais pas que l'important c'est de bouger. Je vais être encore chiant, c'est pas grave. Je dirais que l'important c'est de trouver du plaisir en bougeant. C'est ça pour moi le truc le plus important. Donc que ce soit du yoga, du pilates, de la boxe, du Krav Maga, du CrossFit, peu importe. L'important, c'est de trouver une activité que le patient aime. Okay. Là, j'ai fini mon éducation avec un ex-boxeur qui avait des lombalgies chroniques justement depuis 5 ans. Et typiquement, il avait arrêté la boxe, faute de temps, etc. Mais je me suis dit, pour sa rééducation, tiens, ça va être sympa, on va faire de la boxe. Et j'avoue que ça m'a pas traversé l'esprit de me dire, on va faire des exercices de danse classique. Parce que ça va pas être son truc.
En tout cas, je vais pas.
Voilà, c'est ça. Je vais pas lui dire de faire de la piscine, alors que si ça se trouve, il aime pas ça, etc. Je me suis dit, non, ben, on s'en fout, on va boxer, j'ai des pattes d'ours, il a des gants, bah, parfait, ramène tes gants, et puis on va cogner, quoi. Qu'on a fait quoi, 3 séances, et puis on a terminé le mal de dos, quoi. Donc, je pense que, c'était un exercice intense, donc ça joue sur son système inhibiteur. Mais deux, surtout, il retrouve des sensations, il retrouve du plaisir, il retrouve des choses très positives qu'il ramène à une époque où tout allait bien. Je pense que c'est un peu le combo de ça, en fait, qui a fonctionné, je pense.
Ouais. Ouais, il y a...
Donc, pour te répondre plus simplement, excuse-moi.
Non, vas-y, vas-y.
Non, pour répondre du coup à la question, c'est, je dirais non, il n'y a pas de meilleurs, il n'y a pas de bons, de mauvais exercices, il n'y a pas de meilleurs exercices. Le plus important, c'est l'exercice qui est fait, et je dirais que la deuxième chose importante, c'est l'exercice qui est fait avec plaisir. Voilà.
Mmh. Ok.
Ouais, et je pense, pour rajouter une petite info, il y a beaucoup de patients qui arrivent en cabinet et qui ont peur de bouger ou de reproduire le geste douloureux. Je pense que tu en vois pas mal aussi. Et du coup, déjà juste le fait de remontrer qu'on peut reproduire le geste douloureux sans avoir mal, ça fait quand même une grosse partie du chemin.
Mais bien sûr. Et dans l'idée... J'ai une patiente actuellement qui a une tendinopathie du coude suite à un traumatisme, et pour elle, à nouveau, de pouvoir débrancher une prise électrique ou porter un bol, bah c'est super. Ça nous paraît stupide, hein, parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours et c'est des choses qu'on fait depuis qu'on est tout petit, mais pour elle c'est génial de retrouver ces sensations. Donc, clairement, comme tu dis, hein, de pouvoir montrer à un patient qu'on peut bouger avec pas ou peu de douleur, c'est super, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, sur Instagram, il y a un de tes posts où tu parles de l'acceptance de la douleur,
oui,
pour mieux la quitter ou en tout cas
oui, c'est ça.
Enfin, mieux vivre avec. Et du coup, c'est de ce cas-là dont tu nous parlais?
Non, pas du tout. Non, le cas pour l'acceptation de la douleur, c'était Madame F.
Oui, c'est Madame F, c'est ça.
Et elle avait mal au cou. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Hein. Ça devait être en 2018. Elle avait mal au cou et elle voulait pas qu'on l'y touche, machin, etc. C'était très handicapant, etc. Je lui ai dit, mais bon, vous parlez souvent de votre cou, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire votre cou? Et là, je la vois qui me regarde. Elle bug. Elle me dit, bah rien en fait, vous avez raison, enfin, je peux tout faire malgré tout. Et à partir de, juste avec cette phrase, sa conception, sa douleur par rapport à ça a complètement changé. Et quand je demandais des nouvelles de son cou, elle disait « Oh non, mais ça va, ouais, il me tire un peu, mais ça, franchement ça va, ça m'empêche pas ». J'ai trouvé ça assez énorme en fait, le changement qu'il y a pu y avoir, juste en lui posant une question. Qui était innocente, hein.
Ouais.
Je me suis vraiment dit « J'aimerais quand même bien l'aider de savoir... en quoi son cou est handicap ?» Et elle me répond, bah rien en fait. Ah d'accord. Ok.
C'est drôle.
Mais c'est pour ça que la douleur, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et il y a quand même ces petites parts d'aléas, si je puis dire, et qui sont complexes.
Dans les cas exceptionnels après... de la douleur, pendant que vous parliez, je pensais aussi aux douleurs fantômes. Pour le coup, sont l'inverse du cas de la surfeuse dont tu parlais, Lola. Le fait de ressentir encore une douleur après avoir, par exemple, perdu un membre, été amputé, ne pas se défaire de cette douleur qui nous poursuit.
T'as bien fait de parler de cet exemple-là parce que j'ai un exemple justement de patient, enfin pas à moi. Mmh. Il me semble que c'est un patient de, je sais pas, j'ai un problème avec les noms de famille en ce moment. Bref, ça me reviendra peut-être. C'est un kiné australien qui est Mosley, qui est très très connu dans les neurosciences de la douleur. Et il parlait, alors il me semble bien que c'est Mosley qui parlait d'un patient qui était justement boulanger. Et le pauvre gars, il s'était tranché la main avec ses machines à trancher le pain. Bon. Donc une main en moins, le pauvre monsieur, amputé d'une main. Il a eu des douleurs fantômes, hein, comme tu l'as très bien dit, Janelia. Douleurs fantômes, avec rééducation pour essayer de diminuer ses douleurs, justement. Et au bout de quelques temps, bon, il avait plus de douleurs. Sauf le dimanche matin. Tous les dimanches matins, le gars avait sa douleur qui se réveillait. Alors, le kiné, il comprenait pas, le boulanger, il comprenait, enfin, personne comprenait. Et, en fait, ils se sont rendus compte que tous les dimanches matins, la sœur du boulanger lui ramenait du pain frais. Et que c'était vraisemblablement l'odeur du pain qui ravivait ce schéma douloureux qui avait été construit.
C'est énorme. C'est dingue.
C'est énormissime. Et concernant les douleurs fantômes, oui, c'est en fait, c'est, on va dire que dans notre cerveau, la représentation du membre est toujours là, entre guillemets. Et du coup, comme entre guillemets, il manque de l'information derrière à ce niveau-là, ça fait comme une sorte de bug dans notre cerveau et du coup, il renvoie un message de douleur. C'est en gros comme ça que fonctionnent les douleurs fantômes. Je suis très très loin d'avoir bien compris comment ça fonctionne, d'être spécialisé là-dedans, mais de ce que j'en ai compris en vulgarisant, c'est à peu près ça.
Ouais. Ok. Ouais, c'est assez fascinant.
Mais tu vois qu'encore une fois, c'est plus complexe encore que ça, et que même une douleur fantôme qui est partie peut être ravivée avec un contexte qui rappelle ce qui s'est passé le jour J de l'accident.
Ouais, rien que le père peut déclencher ça, quoi.
Exactement, et c'est ce que plusieurs chercheurs en neurosciences appellent les neurotags. En gros, les neurotags, c'est des sortes de petits circuits qui sont créés dans le cerveau, qui font référence à une situation précise. Par exemple, je sais pas, t'as bu ton premier café de ta vie à 18 ans, et t'as eu de la tachycardie, et du coup, t'avais peur du café. Maintenant, dès qu'on va te dire café, tu vas avoir un petit coup de stress en te disant « Ah oui, tachycardie, etc. » C'est ça un neurotag, c'est une sorte de circuit qui a été créé. Il me semble que ça n'a pas encore été prouvé, l'existence des neurotags, bien qu'on on les soupçonne fortement d'être là.
Ok, c'est un peu la Madeleine de Proust de la douleur, quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Okay. C'est complètement ça. Et de la neurologie en général, ouais.
Ouais. Quand on n'arrive pas à avoir un impact sur la douleur des patients, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on met en place, malgré le fait d'essayer de leur faire accepter leur douleur, de travailler dessus, qu'est-ce qu'on leur conseille en fait, vers qui on les oriente, quels sont les next steps après le kiné?
C'est toujours la question assassine, ça. selon la problématique, soit je vais leur dire que je suis peut-être pas la bonne personne ou que j'ai pas les compétences pour cette personne. Ouais. Donc, en général, je vais renvoyer vers d'autres confrères, que ce soit ostéopathe ou kiné, parce qu'il y a quelques ostéopathes que j'aime beaucoup et avec qui je travaille, ou avec d'autres kinés. Mais souvent, je vais essayer de voir déjà par quelle profession est passé le patient. Donc s'il a déjà vu des ostéos, des chiro, enfin qu'il a un peu fait le tour de la question, je vais être très emmerdé. Je vais être très très emmerdé parce que là, je t'avoue comme ça, je sais pas quoi répondre. Maintenant, si c'est un patient en effet qui a juste fait des séances avec moi et avec qui on n'avance pas trop, je vais le renvoyer chez un collègue ostéo, kiné, etc. Et que tu me poses la question, ça tombe bien parce que je viens de quitter une patiente douleur au pied post-chirurgie, une chirurgie de Morton. En gros, c'est d'enlever un petit bout de nerf qui a déconné dans le pied. Ouais. Et en principe, c'est une chirurgie qui se passe très très bien. Et au bout d'un mois, on marche, on n'a plus mal. Bon, bref, super. Elle, ça fait 6-7 mois qu'elle a mal. Pas de chirurgie. Okay. Et on est hyper embêté. Et en rééducation, j'ai tout essayé, vraiment tout essayé. J'arrive à rien, elle a toujours aussi mal, etc. Là, dans ce cas-là, je réoriente vers le podologue qu'elle avait vu pour voir éventuellement si on peut changer les semelles et si ça peut soulager sa douleur. Et je réoriente vers le chirurgien. C'est pas dans une intention de me délester, mais je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître ses limites et de dire, bah écoutez, là, je pense avoir atteint mes limites, mais c'est pas un abandon de ma part. Moi, je vais échanger avec le chirurgien et le podologue, et tous les trois, on va essayer de trouver justement quel protocole on peut mettre en place pour vous, pour vous permettre de retrouver votre pied.
Et les antidouleurs dans tout ça, c'est quoi ton point de vue là-dessus? On sait quand même qu'on est un des pays du monde qui sommes les plus consommateurs d'antidépresseurs et d'antidouleurs. Ouais. Ils sont accessibles librement en pharmacie. Ouais. On les prend, on est habitué à en prendre depuis qu'on est petit. Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça et comment est-ce que tu prends en charge les patients qui ont si mal qu'ils en deviennent complètement
le meilleur credo, je pense, c'est le moins fait le mieux. Si on prend l'exemple en effet du patient qui est bien chargé, donc par exemple qui va prendre du Lyrica avec de la codéine, etc., etc. Donc, qui est quand même un traitement bien chargé. Je vais travailler de connivence avec le médecin généraliste, enfin le médecin prescripteur en tout cas, pour lui dire, écoutez, je comprends qu'il y a eu ce protocole et je pense que ça a vraiment aidé notre patient. Donc, je trouve ça super. Maintenant, bien sûr, il faut éviter une dépendance, etc. En général, les médecins sont assez d'accord. Et je leur dis, bah, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on mette ensemble un plan de sevrage? Donc le médecin me donne le plan de sevrage, et voilà, je dis au patient, bah, écoutez, on va essayer de sevrer par rapport à ce qu'a dit le médecin, etc. Et petit à petit, diminuer les médicaments pour voir, bah, vous, comment vous allez déjà, si ça va toujours, si les douleurs sont toujours absentes, etc., etc. Donc je vais souvent travailler comme ça. Maintenant, je suis pas du tout contre les antidouleurs. Je pense que parfois, par exemple, pour une douleur très intense, où moi je me sens pas du tout compétent, par exemple pour le famoso tour de rein ou l'imbago, où le patient arrive, je suis bloqué, moi je me sens pas du tout compétent pour ce genre d'individu. Donc souvent je dis, il faut aller voir plutôt un ostéo ou un kiné qui a des bonnes compétences en thérapie manuelle, ou alors éventuellement bah, de prendre un décontractant musculaire, un anti-inflammatoire ou un paracétamol. Je conseille jamais les opiacés parce que bah, un, je suis pas toubib, et de deux, bon, on connaît les effets secondaires qui peuvent être violents, donc ça, je préfère que ce soit un médecin qui le fasse. J'ai pas envie de faire de bêtises. Mais sinon, oui, en cas de douleur violente, je peux recommander l'utilisation d'un médicament, oui, bien sûr.
Ok. Je rebondis juste sur quelque chose. C'est vrai que pour tout ce qui est douleur chronique, donc quand il y a des patients qui viennent avec des douleurs qui trimballent depuis très longtemps, ou alors, ou pas forcément, mais par exemple, j'ai pas mal, le burn-out est pas mal répandu en ce moment. Et du coup, notamment, j'ai un patient qui arrive en plein burn-out et qui a forcément des douleurs cervicales, des douleurs de dos, enfin, il en a plein le dos, quoi. Et je sens que je suis pas la seule à pouvoir l'aider. Est-ce que tu penses aussi que, bah, je sais pas, des techniques comme l'hypnose ou des choses comme ça peuvent aider?
Ah oui, carrément, hein, carrément. Je pense que tout ce qui est de l'ordre du psychologique pour la prise en charge de la douleur, c'est génial. L'hypnose, je pense que c'est un super outil qui est mis à notre disposition. Alors je sais, bah là, suite à un récent débat sur Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de psy que ça emmerde, qu'on puisse avoir accès à l'hypnose. Je trouve ça dommage parce que je pense que la douleur est vraiment notre expertise, et pas vraiment celle des psy. Pas la douleur, en tout cas la douleur comme on l'entend, la douleur quoi. Mais pas genre une souffrance psychologique, mais vraiment la douleur. Donc je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils ont la sensation qu'on vole leurs compétences, etc. Bon, ok. Moi je travaille avec je travaille beaucoup avec certains psys. Et c'est vrai que des patients comme tu me décris là, alors avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de formes, je lui demanderais s'il pense pas que de pouvoir parler à quelqu'un ne pourrait pas l'aider. Après l'hypnose pour nous, je trouve ça super comme outil. Comme les thérapies cognitives comportementales hein, qu'on va forcément utiliser, qu'on le veuille ou pas. et éventuellement de s'entourer en effet de copains psychologues qui sont compétents pour ce genre de choses.
Ok Antoine, et ben écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour du sujet aujourd'hui. Je crois que tu vas devoir reprendre tes activités.
Oui, de toute façon, ouais.
Ta longue journée. En réalité, on pourrait en parler des heures de la douleur. Il y a évidemment plein de choses qu'on n'a pas encore évoquées. Mais l'objectif de ce podcast, c'est de faire le tour d'un sujet qu'on n'a pas forcément le temps de creuser dans notre quotidien, et je trouve qu'on a plutôt balayé ce sujet efficacement. Lola, tu avais d'autres choses à évoquer?
Écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein, comme tu disais, c'est déjà pas mal. Ouais. Merci Antoine.
C'est génial, merci Antoine de ta disponibilité.
Avec grand plaisir.
Tu peux nous rappeler comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Antoine?
Oui, bien sûr. Alors, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, cerveau musclé, donc comme un cerveau et comme quelqu'un de musclé, quelqu'un que je ne suis pas, donc. Donc, cerveau musclé, voilà, sur Instagram et sur YouTube.
Ok, génial. Eh bien, écoutez, très belle journée à tous les deux et à bientôt.
Merci.
Sur Madi.
Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode de Madi, conversation avec un kiné, vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast favorite, Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello@madie.doctor. À très bientôt sur Madi.